Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami, courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu l'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui,
oui.
Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne verrai pas au change, pardi, ploum, ploum.
Bonjour à tous, bonjour Laurent, vous êtes sur Radio Boomerang 89.7 FM dans l'émission Un petit coin de paradis.
C'est exact, bonjour à tous, bonjour Lydie.
Nous sommes très heureux de vous retrouver. Et on va commencer tout de suite avec Nicolas Daquin, pour ne pas changer nos bonnes habitudes.
Qui nous chante
Le grain de sel, il en avait parlé dans l'émission avec Bertrand Caby, dans l'album Briques rouges et sable d'or. On écoute.
C'est de la graine de facho, ça pousse dans les quartiers chauds, ça incivile, ça tyrannise, et ça ne connaît pas la crise. Ça jette l'opprobre, une connerie crasse, sur une partie de la populace, déjà fragile, montrée du doigt par les frileux et les médias. Y'a pas grand-chose sous leur casquette, pas de pensée qui les inquiète. Ces rois de la pensée unique se limitent juste à je te nique. Ces petits fachos de banlieue, si t'es homo, blonde ou bien vieux, te mèneront une vie d'enfer. Certains qu'on les laissera faire. Et oh, la gauche, les droits de l'homme, faudrait peut-être vous réveiller. Le fascisme petit à petit dans mon quartier s'est installé. Ces vrais voyous qu'on banalise, qu'on fantasme ou qu'on folklorise, cette sordide délinquance a de bien tristes conséquences. Humiliation et vie de chien, les petits fracas quotidiens, morosité et frustration, la télé pour seul horizon. S'il s'appelle plus souvent Jamel, Saïd Mourad que Jean-Michel, c'est que la violence a frappé plus durement de leur côté. Et si quelques pousses deviennent arrogantes, gonflées de haine, dans ce jardin de fleurs nouvelles, la tolérance fait son miel. Et oh, la gauche, les droits de l'homme, faudrait peut-être vous réveiller. Le fascisme petit à petit dans mon quartier s'est installé. Couvre-feu dès la nuit tombée, coup de feu pour tous les pompiers, foutre le feu à la cité sous les feux de l'actualité. Et dans ce tableau pessimiste pointe la barbe des extrémistes pour retrouver enfin la paix. Mettons des flics et des curés, vous les poètes, les philosophes, pour éviter les catastrophes. Crevez la nuit qui se prépare, donnez-nous votre part d'espoir, en racontant le monde en face, sans être mièvre, sans trop d'angoisse, dans une vision universelle. Rajoutez votre grain de sel.
C'était très bien. Effectivement, c'était une chanson qui dit des choses, qui est un peu engagée.
Oui, Nicolas n'a pas peur, il aborde tous les thèmes. Et là, voilà, c'était celui-là sur
il a bien raison.
Quelques dérives.
Un petit coin de poésie. Cette semaine, j'ai choisi Jacques Prévert avec son poème très court, Le Jardin. Des milliers et des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé, un matin, dans la lumière de l'hiver, au parc Montsouris, à Paris. À Paris, sur la terre qui est un astre. Et maintenant, on écoute la version chantée et composée par Georges Chelon, notre chouchou.
Des milliers et des milliers d'années ne saurait suffire pour dire la petite seconde d'éternité où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé un matin dans la lumière de l'hiver. Au parc Montsouris, à Paris. À Paris, sur la terre qui est un astre.
Entre deux âges, je leur adresse à tous un message.
Je ne sais rien, mais je dirai tout.
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
Quel est le sujet du jour, Laurent ?
Eh bien, chers amis, aujourd'hui, je vous propose de faire le ménage dans vos idées en vous parlant de l'incroyable changement que notre société a connu depuis presque deux siècles à cause des faits et méfaits de l'industrialisation. Figurez-vous, braves gens, que ça n'était pas mieux avant. Avant, c'était différent. Différent parce que la vie, c'est l'évolution. Le changement se produit presque tout seul. Les grands changements sont l'effet de quelques initiatives, de quelques individus qui d'ailleurs ne mesurent pas l'influence que peut avoir leur idée, leur invention, leur initiative, leur envie de créer, de faire quelque chose. Par exemple, l'informatique qui a bouleversé nos façons de vivre et de qui on a découlé Internet, qui a modifié en profondeur les systèmes d'information, mais aussi le commerce et la communication. Alors aujourd'hui, je vous livre quelques réflexions sur une grande invention du 19e siècle, l'industrialisation. Puis j'en viendrai à l'industrialisation plénière de notre société, à ses avantages et bien sûr ses excès, ses défauts et ses méfaits.
On s'en doute, oui.
Les objets de notre vie courante étaient uniquement réalisés par des artisans de tous les métiers, ceux du textile, de la menuiserie, de la métallurgie, de la sidérurgie, etc. Le métier d'artisan comporte deux phases que sont la conception et la réalisation. Dans leur immense majorité, les artisans travaillaient avec plusieurs compagnons, ils étaient organisés en ateliers, et dans la majorité des cas, les clients venaient à eux. Chacun se sentait en confiance, le prix n'était pas la première préoccupation, tout comme le délai qui se déterminait tranquillement en fonction des possibilités de l'artisan.
Pour travailler, pour des travaux lourds, il faut de la force, de l'énergie, de la puissance. Pendant des siècles, force, énergie et puissance étaient celles de l'homme. Et aussi, et de longue date, on a produit de l'énergie grâce à des moulins hydrauliques au moyen de roues à aubes entraînées par le flux des cours d'eau, et aussi grâce à l'énergie éolienne produite par des moulins à vent, mais aussi dès le Moyen-Âge avec des grues indispensables pour la construction de grands édifices en pierre, cathédrales et châteaux forts par exemple. Ces grues permettaient de hausser jusqu'à des hauteurs de 120 mètres des blocs de pierre d'une tonne. Elles étaient animées par des cages d'écureuils, mues par la marche, non pas d'écureuils, mais par des hommes. Signalons que les Romains qui ont construit des centaines, des milliers de grands édifices devaient certainement disposer de machines de levage que nous ne connaissons pas bien. Pour répondre aux besoins de puissance et d'énergie, un élément naturel va bouleverser les méthodes de travail artisanal : la vapeur d'eau et la machine à vapeur. Un premier modèle de pompe à vapeur fut utilisé dès 1712 dans les mines de charbon en Angleterre. L'invention de la chaudière à vapeur permet d'installer sous un même toit quantité de machines liées à différentes activités de production. Ainsi, on peut rassembler des nombres d'ouvriers importants au lieu que les producteurs artisans soient disséminés géographiquement, ce qui donne un avantage certain en termes de planification, de standardisation des procédures de production et, partant, de coûts de production. La machine à vapeur occupera une place centrale dans l'histoire économique de la révolution industrielle européenne, sans oublier bien sûr le contexte social de l'époque et le besoin de l'industrie de se développer et de trouver de nouvelles méthodes pour améliorer les rendements en raison de la demande qui ne cesse de croître.
Le développement de ces machines est donc extrêmement rapide. 500 machines à vapeur sont en service en Grande-Bretagne en 1800. Le développement de la machine à vapeur est alors l'une des raisons de la précocité économique britannique. En 1830, le Royaume-Uni possède 15 000 de ces machines, la France 3 000 et la Prusse 10 000. La France reste à la traîne dans ce domaine. En 1880, elle ne possède que 500 000 chevaux vapeur installés, contre 2 millions au Royaume-Uni et 1 700 000 en Allemagne. Le déploiement des machines à vapeur accélérera la mécanisation de l'agriculture et par conséquent l'exode rural, ce qui, par contre-coup, crée une main-d'œuvre plus qualifiée, employable par le secteur industriel. J'ai personnellement entendu un agriculteur âgé dire que dans les années 1950, alors que là je parlais du 19e siècle, il avait acheté une machine qui avait permis de faire en un seul jour ce qui nécessitait 3 semaines de travail auparavant. L'industrie textile est aussi concernée par les progrès dus à l'instauration de la machine à vapeur qui permet de faire fonctionner de nombreuses machines à tisser, à tricoter, etc., etc., et favorise l'activité en atelier. Les fabriques et les manufactures se développent ainsi considérablement, provoquant par réaction la ruine des artisans et des entreprises familiales. Tous ces progrès permettent un essor et une productivité sans précédent. La métallurgie connaît également des progrès importants, tels que le remplacement du bois par le charbon dans la fonte aux coques, ou plus généralement comme combustible. Voyons maintenant les faits du développement de l'industrie. Il permet de produire en masse, le développement, à des coûts bien plus bas que par l'artisanat, plus de produits et moins cher au bénéfice des populations en général, qui peuvent ainsi s'équiper de meilleure manière avec des produits plus réguliers en qualité. Il stimule les activités de recherche technique notamment. Il permet à une population de plus en plus nombreuse d'accéder à des éléments de confort et de consommation qui ne cesseront de croître.
Il voit se développer quantité d'activités professionnelles connexes, indispensables au fonctionnement des usines. Activités de mécanique, fabrication de machines, sous-traitance et maintenance, activités bancaires, etc. L'industrialisation amène aussi la création de nombreuses voies de communication, routes, ponts, canaux, chemins de fer. Notons que la ligne de chemin de fer de Paris à Lille, financée notamment par la banque Rothschild, longue de 251 km, a été inaugurée en 1846. Elle conduit à la création d'un corps social intermédiaire, la petite bourgeoisie constituée d'employés, de contremaîtres, etc. Les méfaits maintenant de ce développement. Sur les personnes, comme dit précédemment, l'artisan concevait et fabriquait. D'une part, disons, des cadres, des ingénieurs qui conçoivent les produits et surtout les méthodes d'organisation de la production. Et d'autre part, des hommes voués à la production, à qui on ne demande pas de concevoir, mais uniquement de produire. En somme, on ne fait que louer leurs bras sans s'occuper de leur cerveau, sans leur permettre de penser, avec des conséquences profondes sur leur mentalité, privées de l'épanouissement de la pensée et de la création. En caricaturant un peu, cela conduit à transformer les populations en êtres décérébrés et dociles. En effet, la politique de direction dominante des personnels est de type féodal, à l'image de l'architecture d'un certain nombre d'usines qui ont des allures de château féodal. Les ouvriers doivent obéir au doigt et à l'œil, sans possibilité de pouvoir s'exprimer, sans qu'aucun dialogue soit possible. Enfin, les rémunérations des personnels sont très basses, tandis que les horaires de travail sont démesurés. On travaille 10 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine, 12 mois par an. On emploie des enfants à des tâches très subalternes, dès l'âge de 7 ans. Une population ouvrière épuisée, amère et résignée. La création difficile des syndicats permettra, à partir de la fin du XIXe siècle, de faire évoluer les conditions progressivement. Ça n'est qu'en 1936 que sera votée la loi sur la semaine de 40 heures avec 15 jours de congé annuel. Aujourd'hui, l'horaire de travail hebdomadaire est descendu à 35 heures avec 5 semaines de congés payés.
Et évidemment, les rémunérations, proportionnellement au coût de la vie, sont bien supérieures maintenant qu'au XIXe siècle. Je voudrais dire quelque chose que je n'ai pas écrit, c'est que le développement de l'industrie, on l'a dit, correspond à un besoin de produits, etc. Mais surtout, c'est au moins au XIXe siècle, d'une rentabilité phénoménale, phénoménale. J'ai entendu parler d'un jeune industriel de 25 ans à qui ses parents, qui étaient déjà industriels, ont payé une usine et qu'il a très bien fait fonctionner. Je crois que c'est Eugène Motte. Et au bout de 5 ans, il avait gagné assez d'argent pour construire une deuxième usine.
Ah oui, c'est très très rapide.
Alors, toujours dans les méfaits sur l'environnement. D'abord, la pollution de l'air. Dans l'air, la combustion, par exemple, des chaudières à charbon, puis au fioul, puis au gaz, qui laissent dans l'atmosphère quantité de produits toxiques et qui favorisent le réchauffement climatique. Puis, la pollution des sols et des rivières, et des mers et des océans, par le rejet de produits chimiques hautement toxiques par les entreprises chimiques, par exemple la teinture et la tannerie notamment. À Waterloo, nous avons une jolie colline boisée constituée en fait de 3,5 millions de mètres cubes de déchets industriels générés par l'usine Kuhlmann et ses successeurs en cours de dépollution depuis des années. Sans compter la quantité d'entreprises qui rejettent des déchets de toute nature partout où elles le veulent malgré les interdits. Parlons aussi du phénomène dramatique de la diffusion des microparticules de plastique partout, rivières, océans, sols. Ces particules se retrouvent maintenant même dans le sang humain. Puis la pollution visuelle. Immenses bâtiments et installations que l'on remarque surtout lorsque les activités ont cessé et dont le coût immense de destruction les fait perdurer. Méfait sur les modes de vie. Copiant les méthodes d'organisation et de contrôle des industries, la plupart des secteurs non industriels ont mis en place de véritables politiques industrielles et organisé des systèmes de contrôle avec des auditeurs internes, des contrôleurs de gestion. Par exemple, l'éducation nationale avec les établissements d'enseignement de toute nature, la santé avec les hôpitaux et le système de santé en général, la justice, les organismes de sécurité, police, armée, renseignement, le commerce avec la grande distribution, les médias avec la concentration des organismes de presse, etc. Arrêtons-nous un instant sur la grande distribution. Du commerce de détail des villes et villages d'antan, il ne subsiste pratiquement plus rien, à l'exception de quelques villes importantes ou de quelques communes touristiques. La plupart des centres-villes aujourd'hui sont vides de tout commerce, qui se trouvent déplacés dans quelques périphéries lointaines où on trouve des usines à vendre. Maintenant, les faubourgs de toutes les villes se ressemblent et présentent des zones d'activité impersonnelles, froides et identiques, de Montpellier par exemple jusqu'à Strasbourg.
et c'est flagrant quand on part en vacances de retrouver exactement les mêmes centres commerciaux à l'autre bout.
Partout. Mais c'est qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, c'est voilà. Exactement la même chose, la même organisation.
Alors, je continue. C'est donc Laurent qui parle. Hein. Il ne s'agit pas du tout de nier l'intérêt évident qu'il y a à vouloir contrôler l'activité et l'argent dépensé. Je veux ici simplement mettre en exergue l'instauration généralisée d'un système pernicieux et parfois contre-productif qui entraîne des conséquences graves car il se développe dans la démesure et l'excès qui font perdre le bon sens et la prise en compte de manière collective des habitants. On n'est plus dans la réflexion raisonnée, mais dans la dictature à courte vue et en franc-tireur du tableau Excel qui sert d'outil de décision et produit des économies non réfléchies. Chacun, chaque organisme bricole dans son coin sa méthode pour dépenser moins sans réfléchir aux conséquences globales du système qui se met en place et auquel il contribue. Un exemple. Pendant qu'on organise la rationalisation de la poste en réduisant les effectifs, en fermant des bureaux, des finances d'État, en fermant des centres des impôts, de la gendarmerie et de la police, en freinant l'achat ou le remplacement d'équipements et en réduisant le nombre de fonctionnaires, en rationalisant le réseau des hôpitaux, c'est-à-dire en les regroupant, pendant qu'on fait tout ça, personne ne mesure qu'on vide les campagnes des équipements et services nécessaires à la vie quotidienne des habitants. Cela crée des situations dramatiques. Pas d'école ni de collège, plus de médecins, ni de pharmacie, ni de poste, ni de centre des impôts, ni gendarmerie, ni pompiers même, etc. Les bourgs et les villages n'ont plus rien que des logements avec des habitants démunis, obligés, s'ils le peuvent, de quitter leur commune pour aller habiter en ville.
Voilà, en synthèse donc de tout ce qui précède, oui à la mise en place d'organisations semblables à celles des industries, non à la systémisation, non au manque de concertation, non aux excès, non au mépris des habitants. Merci de m'avoir écouté et, comme disait le boucher de ma jeunesse, enlever c'est peser.
Eh ben, sacré sujet, Laurent, là.
Ben ouais, je me suis lancé, j'étais en forme, ça fait des années que
c'est bien.
Ça ruminait.
Ça fait réfléchir, oui. Bon, on va écouter maintenant la chanteuse Pomme dans son album « Les failles cachées », le titre « La lumière ». On a besoin de lumière. On écoute.
Si je n'ai pas retrouvé dans tes yeux la lumière, c'est que ton cœur a lâché tes poumons une rivière. Dans le château des secrets, tu es le moins âgé. Tu en connais des secrets, tu les dis pour pas les oublier. Ah, ah, oublier. Et les enfants de tes enfants, ah, ah, oublier ton prénom et le chemin de la maison. Le précieux de ton passé, de tes joies, tes colères, tes yeux, le reste de lumière.
Donc un sujet grave qui est ici abordé par Pomme, de la maladie d'Alzheimer. Alors Laurent, qui as-tu choisi cette semaine ?
J'ai choisi, sous contrainte de Lydie, je plaisante, j'ai choisi Old Laugh.
C'est pas moi, c'est pour Claire. J'en ai parlé à mon amie Claire et je voulais aborder...
Chère Claire, c'est avec plaisir que j'ai non pas écrit mais recopié et aménagé un petit texte court sur Old Laugh. Ma source, c'est Wikipédia. Olivier Delafosse, dit Old Laugh, est un auteur, compositeur, interprète, chanteur humoristique et musicien français né en 75 à Paris. Ça lui fait au jeune homme 47 ans en 2022. Si je le précise, c'est qu'évidemment sa biographie est courte. Né en région parisienne, Olivier Delafosse apprend le piano dans son enfance. À 14 ans, il commence à composer des chansons qu'il interprète au sein d'un groupe de lycéens. Après le bac, il suit des études de musicologie, il devient animateur socio-culturel, socio-cu on dit, et enseigne un temps la musique au collège. Néanmoins, il décide de tenter sa chance comme chanteur à Paris. Le tout premier groupe d'Old Laugh s'appelle Les Petits Humains. Il est créé en 97 à Paris et ce groupe, Les Petits Humains, enregistre deux albums. Old Laugh crée en 2000 avec Frédéric Drac, qui est comédien, le groupe Old Laugh et Monsieur D. Ça durera 10 ans et se sépare en janvier 2010. En mars 2003, Old Laugh a rejoint les Fatal Picards comme guitariste pour l'album Picardia Independenza. Ça évoque évidemment les autonomistes corses et donc c'est rigolo. En 2010, Old Laugh est de retour sur scène avec quatre musiciens. Il tourne dans toute la France, dans des festivals comme les Solid Days, la SEMO en Belgique ou les Francofolies de La Rochelle. Il donne même un concert spécial Star Wars à l'Alhambra de Paris. En février 2011, il sort un EP, Vendredi, avec lequel il se place à la 18e position des classements des meilleures ventes d'albums téléchargés. En parallèle, il poursuit une tournée dans toute la France avec son spectacle « Le monde est beau ». Grande date parisienne en 2012, au Trianon, le 28 avril, diffusée en partie sur France 4. Puis « La tristitude », single de l'album « Le monde est beau », un concept mis en chanson dont la particularité est que l'on peut transformer les paroles à sa façon. Ce qui explique en partie le succès de ce titre. Michel Drucker intègre ainsi Old Laugh dans son équipe et sur Europe 1 en tant que chroniqueur où il chante « La tristitude du mois ». Old Laugh devient finalement un chroniqueur de l'émission dans laquelle il propose chaque semaine une chronique en chanson. Dans le même esprit est organisé un concours « Chante ta tristitude » sur Dailymotion, en partenariat avec VDM, qui signifie « vie de merde », et France 4. En 2013, trois concerts à l'Alhambra, en novembre 2013, donc on l'a dit, ainsi qu'une tournée dans toute la France. En 2014, Old Laugh devient chroniqueur télé dans l'émission « Du côté de chez Dave », diffusée sur France 3. Il y présente chaque semaine une chronique sur l'invité de l'émission. Une tournée de plus de 100 dates accompagne la sortie de Dimanche, c'est le nom d'un album, et se termine par un concert au Zénith de Paris en 2014. En juillet 2016, Old Laugh présente son spectacle « La folle histoire de Michel Montana » au Festival d'Avignon. À partir de septembre 2016, Stéphane Bern recrute Old Laugh sur RTL pour une chronique hebdomadaire en chanson, chaque jeudi. À la suite d'une opération chirurgicale à l'épaule en 2018, Oldelaf perd momentanément l'usage de son bras droit, ce qui l'oblige à réorganiser sa tournée de spectacle, car il ne peut plus jouer de guitare. Au total, Oldelaf a donc joué et chanté dans plus de 1000 concerts. On peut dire, de mon ressenti, que c'est un artiste talentueux, très bon guitariste, très bon improvisateur et avec un talent humoristique oui. affirmé.
Beaucoup d'humour et assez cynique, mais très très créatif et très bon musicien. J'ai eu la chance d'aller le voir à la boîte à musique à Waterloo avec mes deux grands-fils et c'était un super moment, une super ambiance et quelqu'un de très très généreux, très sympathique.
Et très simple.
Et je pense que ta page Wikipédia n'est pas à jour parce que j'ai dans mes mains l'album qui s'appelle Mes Aventures qui est sorti en 2019. Alors c'était avec une campagne Ulule à laquelle j'ai participé et donc j'en passerai un extrait. Donc ça s'appelait Mes Aventures.
Très volontiers. Et donc je prends la décision de changer de fournisseur et je vais rayer Wikipédia de la liste de mes fournisseurs, définitivement.
Bien, en tout cas, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup.
C'est exact.
Qui dérange un peu, mais voilà, encore une fois.
Si on a un petit peu de recul, c'est un type très amusant, très sympathique, oui. et qui jette un regard parfois un peu cynique, mais bien critique sur notre environnement, notre société.
Bon, je ne pouvais pas ne pas faire entendre la tristitude, qui a été vraiment son tube.
La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal, la tristitude, c'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août. Quand tu dois aller vivre à nos gens le retrouve. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux. Et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est ouh, c'est eux. Que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la mer cause de la princesse de Galles. Quand samedi soir c'est ta fille qui joue sur Canal. Et ça fait chier. La tristitude, c'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Et ça fait mal, mal, mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu la détresse dans la crâne. Ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand ton frère si à moi t'apprend qu'il a le sida. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Quand des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois. Et ça fait mal. La tristitude, c'est devenir styliste mais pour aider. C'est conjuguer, bouillir au subjonctif pluriel. C'est faire les courses le samedi d'avant Noël. Et ça fait mal, mal, mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu la détresse dans le crâne à moi. La tristitude, c'est tristitude, la tristitude, la tutule, te donne la tristitude, la tristitude, te donne la tristitude, la tristitude.
Lydie, elle est fin Bénache, elle a le sourire, elle a bah drôlement
oui,
apprécié.
J'ai regardé en même temps le clip, je vous le conseille, hein, en allant sur YouTube, vous voyez en même temps les visages.
Toi, t'as un écran.
Des gens tristes. Non, non, mais ça finit bien. Et maintenant, je continue la lecture du livre de Gilles Legardinier, J'ai encore menti, où Laura a perdu la mémoire.
C'est pas Gilles qui t'envoie des fleurs toutes les semaines parce que tu lis ses textes?
Bah, écoute, j'aime bien sa façon d'écrire. Les journées s'enchaînent sans que je les voie passer, toujours à faire, toujours à apprendre, à l'ombre d'une conviction grandissante qui ne simplifie rien. Plus on en sait, plus il est difficile d'être heureux. Je remporte quand même de petites victoires. J'ai enfin compris que chauve n'était pas une couleur de cheveux. Retrouver la mémoire n'est pas non plus mon obsession. Tant pis pour les trous, tant pis pour mes inaptitudes. Ce qui m'importe désormais, c'est de comprendre qui je suis aujourd'hui. Ai-je achevé de devenir celle que je dois être? Suis-je enfin capable d'agir autrement qu'en réagissant à ce qui m'est imposé? Dans quelques jours, je vais devoir rendre Cubix. Cubix, c'est son chat. J'en suis malade. Je ne suis pas certaine d'y arriver. Chaque fois que je joue avec elle, chaque fois que je la caresse, chaque fois qu'elle me regarde, j'ai l'impression que c'est la dernière fois. Pour échapper à cette échéance, j'ai envisagé de déménager et de ne plus jamais donner de nouvelles à Audrey. J'ai aussi imaginé lui faire croire qu'on m'avait volé son animal, mais je n'ai pas trouvé comment arriver à la dissimuler ensuite, alors que nous sommes voisines de palier. Je suis désemparée. Je sais que quelle que soit l'option, ce sera un horrible moment à passer, immédiatement suivi d'un insupportable vide qui durera longtemps. Cubix et l'homme au téléphone sont désormais les deux rendez-vous les plus personnels qui rythment mon existence. Toute la journée, j'attends le moment où je parlerai à l'un en caressant l'autre. Un jour, qui sait, je ferai peut-être l'inverse. Je n'ai jamais parlé aussi librement avec personne. Sans doute parce que je ne me sens tenue à rien. J'ignore son nom, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais finalement je commence à le connaître mieux que beaucoup de mes proches. À défaut d'être amoureuse, j'ai l'impression de gagner un ami, un vrai, ce qui ne m'était pas arrivé avec un garçon depuis l'école primaire. Je me suis habituée à ce qu'il me questionne. Pour être tout à fait honnête, j'aime ça. Nos échanges m'aident à voir plus clair en moi. En lui expliquant qui je suis, je me comprends mieux. Peut-être prépare-t-il lui aussi ses questions à l'avance sur une feuille ? Ce soir, c'est à son tour de m'interroger. Quel est le genre de moment que tu préfères dans la vie ? Suis-je obligée de répondre immédiatement? Parce que ça demande réflexion. Plus tu réfléchiras, moins ce sera spontané. Or, c'est souvent ce qui te correspond le mieux. Soit. Dans mes moments favoris, je n'ai pas à me concentrer longtemps. Même avec une mémoire fragmentée, une évidence s'impose. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est le moment juste avant de retrouver ce que j'aime. Attendre mes amis, ma famille, savoir que l'on sera réunis. Je ressens alors la même excitation que lorsque j'étais petite, juste avant de déballer un cadeau. Tu éprouves ça aussi avant nos coups de fil? La réponse est oui, mais je ne me sens pas encore assez assurée pour l'admettre. Le sujet est stratégique. Trop tôt pour le dire. Et toi, quels sont tes moments préférés? Il marque une pause, puis me confie d'une voix légèrement différente. C'est toujours à l'aube. dans un petit port où j'ai passé de nombreux étés avec mes parents. Je traîne mon voilier jusqu'à la jetée, encore déserte, et je le mets à l'eau. La mer est froide, le vent souffle, mais sans violence. Je me prépare à gréer la voile. J'aime les gestes à accomplir avant de naviguer. Ce rituel immuable me rassure et m'apaise. Je retrouve mon vrai rythme. Je respire plus profondément. Je me recentre. À l'entendre, on jurait qu'il est en train de vivre ce qu'il décrit. Juste avant de larguer les amarres, je hume l'air. Je me demande vers quel cap je vais voguer. J'éprouve alors une sensation de liberté, sans équivalent. Tous les horizons sont possibles. Tu m'as dit que tu aimais le mot « rare ». Il correspond parfaitement à cet état. Mes yeux sont éblouis, mes sens débordés. Souvent, je me gratte le ventre sans même m'en rendre compte. Tu te grattes le ventre ? De bien-être, comme un ours ? Tu le fais souvent ? Me gratter le ventre ? Non, prendre la mer. Pas assez, mais chaque fois que je peux. Sa façon de raconter me plaît. Je lui donne direct 200 points. Et je m'arrête là pour aujourd'hui.
J'apprécie beaucoup.
Et on va continuer maintenant avec Old Love. Cette fois-ci, c'est dans un album qu'il avait fait pour les enfants. Ça s'appelait Bête et méchant, l'histoire d'un petit garçon Michel. C'est très drôle. J'ai choisi la chanson Des bisous. Écoutez bien les paroles.
C'est un peu fou de penser que les sangsues sucent le sang.
Un petit peu comme les poux.
Pauvre de nous.
Qui passons
auprès des gens.
Pour de filles et filous.
Qu'on se le dise, les sangsues.
Les sangsues sont les animaux tout doux.
Aussi doux que les dindes du doux.
Ceci nous laisse en dessus, sans dessous.
Car les sangsues ne font que des
bisous. Oui, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous sur les genoux.
Des bisous tout beau, tout doux.
Ou sur la joue.
Des bisous
sur le ventre ou bien dans le cou. Des bisous un peu voyous, oui des bisous, tout babou, tout crabou, tout nous. Mais c'est pas de notre faute à nous, même si ça vous laisse à vous de dégoût, nous on veut des bisous, un point, c'est tout.
Mais pour pouvoir faire des bisous,
sans manger,
des crosses, des claquer, des coups,
pour avoir la classe, vous portez surtout
des habits, comme ceux des marquis de Corfou,
qui coûtent sûrement la peau, les coups, seulement le saviez-vous,
les sangsues
sont sans le sou,
elles n'ont plus d'argent du tout,
cette histoire est du coup. Sans issue, non, si les sangsues les payons. Bisous, oui, des bisous sur les genoux. Des bisous tout beau, tout doux, ou sur la joue. Des bisous sur le ventre ou bien dans le cou. Des bisous un peu voyous, oui, des bisous tout bas, tout crabe, tout mou. Mais c'est pas de notre faute à nous. Même si ça vous laisse un goût de dégoût, nous on veut des bisous, un point, c'est tout.
Ces sangsues, elles sont si sensuelles et si sympas, cette chanson va être un véritable succès. Hein. Michel aurait volontiers passé plus de temps avec elle, mais elle s'en retourne au fond de l'eau pour continuer leur...
Alors c'était quoi, Laurent ? Il faut dire
aussi que de toute façon... J'ai pas bien compris les paroles.
Donc, je c'était ne sais des pas... sangsues.
Ah.
Horrible.
C'est répugnant.
Il est drôle cet album, Bête et méchant, de Old Laugh.
Dans l'Est, à une heure d'affluence, un type dans les 26 ans, chapeau mou, avec cordon remplaçant le ruban, cou trop long, comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en question s'irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Tompleur Nichard, qui se veut méchant, comme il voit une place libre, se précipite dessus. 2 heures plus tard, je le rencontre, cours de Rome devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit : tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton par-dessus. Il lui montre où, à l'échancrure, et pourquoi.
Pour ne pas dénoncer nos petits camarades, il y a des gens qui pensent que c'est une erreur dans le dans l'enregistrement.
Ce petit jingle. Oh, il y a une erreur technique, alors qu'en fait, c'est juste le texte
d'origine
de Raymond Queneau qui est assez court, mais en accéléré.
Voilà, c'est la voix
grave.
De Laurent, mais accéléré. J'ai choisi cette semaine la rubrique présent.
Dans quel ouvrage alors ?
Raymond Queneau, exercice de style, toujours. À midi, la chaleur s'étale autour des pieds des voyageurs d'autobus. Que placer sur un long cou, une tête stupide, ornée d'un chapeau grotesque, vienne à s'enflammer, aussitôt pète la querelle. Pour foirer bien vite d'ailleurs, en une atmosphère lourde pour porter encore trop vivante, de bouche à oreille, des injures définitives. Alors on va s'asseoir à l'intérieur, au frais. Plus tard, peuvent se poser, devant des gares aux cours doubles, des questions vestimentaires à propos de quelques boutons que des doigts gras de sueur tripotent avec assurance. C'est vraiment un exercice aussi de diction.
C'est pas facile.
Et on continue avec...
Mathilde Brohr.
Alors Mathilde Brohr, j'ai eu la chance de l'entendre à la médiathèque de Roubaix. Et j'ai donc acheté un de ses disques et j'ai choisi la chanson « De la main gauche ». Voilà, une dame qui s'accompagne aussi à l'accordéon et elle a un beau petit chien aussi sur scène.
Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui faisait des fautes, du moins on l'a raconté. Je m'efforçais de la taire pour trouver le droit chemin.
Je voulais dire que je t'aime, t'aime,
un tchocoin de Parichi.
Un court texte de Jean-Pierre Delahaute qui était dans Nord et Clair, et comme femme, elle a découpé et répertorié. Aujourd'hui, un respect purin. Qui ça ? Chez voiture, ceux qui stationnent ici et là, ou chez interdit, sur les trottoirs, ceux qui roulent comme des malades, ceux qui s'arrêtent, un bloquant la circulation, qui prennent le sens unique à l'inverse. Et chez fameux mariages, avec chez abrutis, debout au cassis, avec leur caméscope. Et avec tout ça, un ne dit rien. Et chez moto qui dépasse la vitesse autorisée, qui franchisse les lignes blanches, qui frôle les voitures en les obligeant à s'écarter, qui brûle les feux rouges, et etc. Et j'en passe. Et pourtant, acheteur, un met de plus en plus que chez fameuses caméras de surveillance. Mais je me demande à quoi qui servent. À rien, car hier, comme je tout dis, ils sont impunis, même si défaut un fait des opérations coup de puck. Chez peau, douc, chez qu'un va, mais un y va tout droit.
Merci Laurent.
Pourquoi tu ris? C'est mon mauvais
accent.
C'est
bien, non mais c'est bien.
Ouais.
Et on écoute maintenant Old Love dans l'album Mes Aventures. Ça s'appelle Ami Ami.
Jean-François en avait marre des stages de fin d'études qui débouchent sur du chômage ou pire sur d'autres études. Il décide de se lancer dans le trafic de cocaïne comme l'avait fait avant lui sa grande tante Martine. Sur les conseils d'un ami qui sortait de prison, il a vu en grand, alors il est monté dans un avion. Direction la Floride, ses flamants roses et ses putes. À Miami, il rencontre le boss du coconut. L'homme qu'on appelle Chico lui balance tout de go. Tu veux être mon ami? Jean-François répond oui. Ami, 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 ami. Chico, qui lui demande de ramener une valise d'Orlando. Une valise en cuir remplie de sachets de farine. Mais Jean-François n'est pas dupe, il sait que c'est pas du cuir. Sur la route, il est stoppé par un flic à moto. Là-bas, on les appelle chips, pourquoi on ne sait pas trop. Le motard contrôle la valise et dit tout à coup: oui, c'est bien de la farine, c'est bon monsieur. Me confie plus la coco. Cet homme que je croyais gentil n'était qu'un Miami. Ami, 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 ami. Ami, 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 ami. Famille d'amis dans la mafia. Ami à qui, ami à moi. Jean-François arrive avec la valise de farine. Au coconut où Chico l'attend assis dans la cuisine. Il y a là oncle Sanchez, le parrain de Chico, et plein de gens souriants qui attendent autour d'un cadeau. Chico dépose la farine tout au fond d'un saladier, ajoute 3 œufs et du sucre et puis 1 litre de lait entier. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, explique-moi Chico.
Ah, en fait c'est que c'est ton anniversaire, c'est une surprise, gringo.
Oh, j'y ai pensé.
Ami, 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 ami.
Oh.
Ami, 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 ami.
Oh.
Famille d'amis dans la mafia.
Ami, t'aimes beaucoup tout ça, hein, François.
Ami à qui, ami à moi.
Oh, si tu écoutes, j'adore.
Ami, 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 ami.
Toi, autre copine.
Ami, 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 ami.
Non, pas depuis 5 ans.
Famille d'amis dans la mafia.
Mais surtout, il y a pas été.
Et maintenant, on écoute du Verlaine, lu par Laurent.
Voilà, c'est dans une partie de ses œuvres qui est classée dans « Jadis et naguère ». Le court poème s'appelle « Langueur » et il est dédié à Georges Courteline. Je suis l'empire à la fin de la décadence qui regarde passer les grands barbares blancs en composant des acrostiches indolents d'un style d'or où la langueur du soleil danse. L'âme se lait à mal au cœur d'un ennui dense. Là-bas, on dit qu'il est de longs combats sanglants. Oh, ni pouvoir étant si faible aux vœux si lents. Oh, ni vouloir fleurir un peu cette existence. Oh, ni vouloir, oh, ni pouvoir mourir un peu. Ah, tout est bu, bat-il, as-tu fini de rire? Ah, tout est bu, tout est mangé, plus rien à dire. Seul un poème un peu niais qu'on jette au feu. Seul un esclave un peu coureur qui vous néglige. Seul un ennui. D'on ne sait quoi qui vous afflige.
Oui, malheureusement, on va se dire au revoir.
C'est toujours trop court. Au revoir, chers auditeurs et terre tous aussi.
À très bientôt.
À bientôt.
Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardis.